Deuxième partie. La vallée de la neige noire. Chapitre 15. Rendez-vous. Allée était maintenant trop près pour qu'on la vît. Le comble était que les observateurs sur la Terre auraient une bien meilleure vue de la queue, qui s'étirait déjà sur 50 millions de kilomètres, perpendiculairement à l'orbite de la comète, comme une bannière flottante aux invisibles rafales des vents solaires. Le matin du rendez-vous, Floyd se réveilla de bonne heure après un sommeil agité. Il n'avait guère l'habitude de rêver, ou tout au moins de se rappeler ses rêves, et sans aucun doute l'énervement à l'approche de la rencontre en était responsable. Il était aussi vaguement inquiet à cause d'un message de Caroline, lui demandant s'il avait eu récemment des nouvelles de Chris. Il avait répondu par radio, avec une certaine irritation, que Chris n'avait jamais pris la peine de dire merci quand il l'avait aidé à obtenir un poste à bord du vaisseau jumeau d'univers, Cosmos. Peut-être en avait-il déjà assez de la ligne monotone Terre-Lune et cherchait-il de l'aventure ailleurs. « Comme d'habitude, avait conclu Floyd, nous aurons de ses nouvelles quand il voudra bien en donner. » Tout de suite après le déjeuner, les passagers et l'équipe scientifique se réunirent pour une dernière conférence du capitaine Smith. Les scientifiques n'en avaient nul besoin, bien sûr. Mais s'ils en éprouvaient de l'irritation, cette émotion puérile fut vite balayée par l'étrange spectacle qui apparaissait sur le principal écran vidéo. On aurait aisément imaginé qu'un hiver volait dans une nébuleuse plutôt que vers une comète. Tout le ciel devant eux n'était plus qu'une brume blanche, non pas uniforme, mais marbrée de condensations plus foncées, striées de bandes lumineuses et de jets étincelants irradiant tous d'un point central. À ce degré d'agrandissement, le noyau était à peine visible, minuscule point noir pourtant responsable de tous les phénomènes alentour.
« Nous coupons notre propulsion dans 3 heures, » annonça le capitaine. « Nous ne serons plus qu'à 1000 kilomètres du noyau avec une vitesse virtuelle zéro. Nous procéderons à quelques observations et confirmerons notre site d'atterrissage. Nous allons donc nous trouver en apesanteur à 12 heures précises. Auparavant, vos stewards de cabine s'assureront que tous les objets sont bien arrimés. Ce sera exactement comme pour la manœuvre de retournement, à cette différence que cette fois cela durera 3 jours au lieu de 2 heures, avant de retrouver l'apesanteur. La gravité de Halley ? N'y pensez pas ! Pas même 1 cm² au carré, à peu près le millième de celle de la Terre. Vous pourrez la détecter si vous attendez assez longtemps, mais c'est à peu près tout. Un objet met 15 secondes à tomber d'une hauteur d'un mètre. Par mesure de sécurité, j'aimerais vous voir tous ici dans le salon d'observation, bien assis, avec vos ceintures correctement attachées, pendant le rendez-vous et l'atterrissage. D'ailleurs, c'est ici que vous aurez la meilleure vue et toute l'opération ne durera pas plus d'une heure. Nous n'utiliserons que de très petites corrections de poussée, mais elles risquent de provoquer des troubles sensoriels mineurs. Le capitaine parlait bien sûr du mal de l'espace, mais cette expression était d'un commun accord tabou à bord d'univers. Beaucoup de mains néanmoins se glissèrent discrètement sous les sièges pour s'assurer de la présence des fameux sacs en plastique. Sur l'écran, l'image devint plus précise à mesure qu'on augmentait le grossissement. Floyd eut un moment l'impression de se trouver dans un avion descendant à travers des nuages légers plutôt que dans un vaisseau spatial proche de la plus célèbre de toutes les comètes. Le noyau devenait de plus en plus grand et plus net. Ce n'était plus un petit point noir, mais une ellipse irrégulière, d'abord une petite île grêlée perdue dans un océan cosmique, et tout à coup, un monde à part entière. On n'avait pas du tout l'échelle des proportions. Floyd savait que le panorama déployé devant lui avait moins de 10 km de large, et pourtant il aurait facilement imaginé qu'il contemplait un corps céleste aussi grand que la Lune. Mais la Lune n'était pas floue sur les bords, et sa surface ne produisait pas de petits jets de vapeur, ni de grands, comme les deux qu'ils avaient sous les yeux.
« Mon Dieu !»
s'exclama Mihailovitch.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Il désignait sur l'écran le bord inférieur du noyau à proximité de la face éclairée. Indiscutablement, contre toute évidence, un feu clignotait là, sur la face nocturne de la comète, avec un rythme parfaitement régulier, allumé, éteint, toutes les 2 ou 3 secondes. Willis émit son célèbre toussotement.
« Je peux vous expliquer ça en 2 mots. »
Mais le capitaine Smith le devança.
« Navré de vous décevoir, monsieur Mihailovitch. Ce n'est que le phare de Sampleur Probe 2. Il est installé là depuis des mois, attendant que nous venions le repérer.
Quel dommage. Je croyais qu'il pourrait y avoir quelqu'un, quelque chose là, pour nous accueillir.
Nous n'aurons pas cette chance, hélas. Nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes, ici. Ce phare est situé juste à l'endroit où nous avons l'intention d'atterrir, près du pôle sud de Halley et pour le moment dans l'obscurité totale. Cela facilitera le fonctionnement de nos systèmes de survie. La température monte jusqu'à 120 degrés sur le côté ensoleillé, bien au-dessus du point d'ébullition.
« Pas étonnant que la comète bouillonne, » dit sans se troubler Dimitri. « Ces jets me paraissent plutôt malsains. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger ?»
C'est une autre de nos raisons d'atterrir sur la face nocturne. Il n'y a pas d'activité là-bas. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner sur la passerelle. C'est la première fois que j'ai l'occasion de me poser sur un nouveau monde et je doute que j'en aurai une autre. L'auditoire du capitaine Smith se dispersa lentement dans un silence inhabituel. Sur l'écran d'observation, l'image se réduisit à sa taille normale et le noyau redevint un point à peine visible. Pourtant, même pendant ces quelques minutes, il semblait avoir grandi et peut-être n'était-ce pas une illusion. Moins de 4 heures avant le rendez-vous, le vaisseau fonçait toujours vers la comète à 50 000 km/h. Dans cette phase du vol, si jamais la moindre avarie endommageait le moteur principal, le vaisseau creuserait un cratère plus impressionnant que tous ceux qui criblaient actuellement Halley.